Ce week-end, c'est en pleine période de ce qu'on appelle dans le Zen le Rohatsu. C'est une période qui commence le 1er décembre et termine le 8 avec ce qui est considéré le jour de l'éveil du Bouddha. Et apparemment même ce mot Rohatsu en japonais veut dire 8 décembre, le 8 décembre. Et cette période, partout dans le monde, dans le Zen, traditionnellement, il y a une retraite. Une semaine. Et je pense que c'est la première fois que nous, dans notre groupe, on a fait une retraite qui correspond à peu près à cette date, parce que lundi, c'est le 8, hein, je crois. Et je me suis rendu compte de ça quand on avait fait la petite enquête pour savoir qui était disponible, quel moment, etc. Et j'étais ravie qu'il y avait un nombre assez important qui était partant pour faire quelque chose ce week-end-là, parce que ça correspondait à ce week-end, cette époque particulière. Mais bon, je n'ai pas mis l'emphase là-dessus, j'ai même pas indiqué que c'était pour fêter Rohatsu, j'ai rien dit. Et donc je suis très heureuse là, de faire ça et de me remettre dans cette atmosphère et cette époque de l'année, s'asseoir ensemble, etc. Car les 5 premières années que j'ai pratiquées, que j'ai commencé à pratiquer formellement avec Dana, etc., chaque année il y avait une semaine de pratique. Rohatsu, et c'était dans le nord de l'Angleterre, pas loin de la frontière avec l'Écosse, dans une ferme qui a été convertie en bed and breakfast, en gîte en fait, et donc on louait cet endroit et on faisait une semaine. Et même la première session d'une semaine que j'ai fait, c'était ça. C'était dans cet endroit-là. C'est toujours une saison particulière, une atmosphère particulière. C'est le début de l'hiver. Le soleil se couche plus tôt. Comme on l'a dit hier. Et là où j'étais, au nord de l'Angleterre, vers 16h, c'était fini la journée. Hein. Il faisait nuit déjà vers 16h. Et il y avait de la neige. Il y avait beaucoup de moutons. Et les petits chemins qui sont typiques de l'Angleterre, avec des haies de chaque côté et tout ça, c'était très picturesque. Bon. Ça, en principe, n'a rien à voir avec Rohatsu, sauf que c'est la saison et c'est l'hiver, c'est le début de l'hiver, c'est la fin de l'année. Et donc, dans toutes les zendo, les monastères partout dans le monde, on marque la fin de l'année de pratique. C'est une espèce un moment où on se rend compte de ce que c'était notre pratique de l'année, on se regarde là où on est, ce qui étaient nos objectifs ou non, je ne sais pas, juste là où on est. Et on se penche sur ce qu'on dit était l'éveil du Bouddha ce jour-là, le 8 décembre. Et dans la tradition zen, on considère qu'il avait pendant, on fait 7 jours d'ailleurs de la retraite, parce qu'on considère que pendant 7 jours et nuits, il était tout seul sous son arbre. Et le 8 décembre, le 8e jour, quand le jour commençait à se lever, il avait vu l'étoile du matin, et c'est à ce moment-là qu'il s'est éveillé. C'est ce qu'on dit. C'est la légende. Et donc, on fait la même chose. On fait 7 jours de retraite. Et dans les autres écoles bouddhistes, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il marque ça, il met la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha un seul jour, et c'est le mois de mai. Bon, il y a probablement des différences de calendrier, de calcul, et puis peut-être que dans certaines traditions, ils ont décidé de mettre tout ensemble pour fêter tout ensemble. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas pour les autres traditions. Mais dans le zen, en tout cas, zen japonais, je ne sais pas pour le zen coréen, mais le zen japonais, c'est ça. C'est Rohatsu. Et donc, quand je pensais à ce week-end, je me préparais, disons, pour ce week-end avec ça en tête. Et de regarder, de se pencher sur qu'est-ce que c'est donc cet éveil, on dit un éveil, et qu'est-ce qui était essentiel là, qui nous amène à toujours marquer ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup qui est juste rituel, tradition, et donc on fait parce qu'on a toujours fait comme on fait dans les rituels de famille, etc. Bah, oui, on a toujours mis cette chose-là sur la table à Noël, dans les familles à Thanksgiving, aux États-Unis, c'est « Ah non, mais il faut absolument avoir ce plat-là, c'est pas Thanksgiving si on n'a pas ça, etc. » Bon, c'est des rites qui sont passés de génération en génération. Mais qu'est-ce qui est d'essence, qu'est-ce qui est derrière cette rite, dans cette Rohatsu et ce qu'on appelle l'éveil du Bouddha? Qu'est-ce que c'est cet éveil? Et j'avais pris Sorakusu parce que ce qui est écrit dessus est censé être ce qu'il a dit au moment de son éveil. Là aussi, il y a différentes versions de ce qui a été dit, différentes traditions. Traduction, et comme on sait, la traduction c'est toujours une interprétation. Et si on reste avec ces différentes traductions, on voit que ça revient au même, plus ou moins, dit de différentes façons. Et ça peut être intéressant de savoir, mais pourquoi un tel l'avait dit de cette façon et un autre l'a dit de cette façon, mais c'est pas tellement ça qui nous concerne pour moi. Et donc, comme on sait, déjà, quand on raconte cette histoire de Bouddha, c'est qu'il avait, tourné son dos à toute la société de consommation, de toutes les préoccupations avec ce qui était impermanent, mais sans voir que c'était impermanent, et essayer de lutter contre ça, que ce soit contre la vieillesse, la mort, la maladie, les choses, les objets, tout ce qui appartient au monde matériel. Ça ne veut pas dire qu'il niait son existence de tout ça, ni qu'il ne l'appréciait pas. C'est juste qu'il avait choisi de tourner son dos pendant un temps pour voir, mais de quoi il s'agit tout ça. C'est comme nous, on fait une retraite, on dit ok, c'est l'équivalent de tourner notre dos à ce qu'on fait d'habitude le week-end. Qu'est-ce qu'on aurait fait hier soir? Qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui? Mon fils m'a m'appelle pendant une pause pour me demander mais où est le shampoing, maman? Il n'y a plus de shampoing, etc. Bon, ouais, j'ai choisi de, pendant un week-end, de ne pas participer à tout ça. J'ai répondu, mais bon, j'aurais pu ne pas le faire. Ce n'est pas que ce n'est pas important de le shampoing, ou savoir où c'est, ou répondre à son fils. C'est juste qu'on choisit pendant ce temps-là de faire d'autres choses.
T'es sûr que c'était le shampoing, c'était pas du champagne?
Non, non, je me suis trompée, c'était une espèce de lapsus, ça aurait pu être, mais...
Ça avait plus de sens.
Non, c'était le shampoing. C'était 11h du matin, quand même. Donc, shampoing, le champagne, ce sera pour plus tard. De quoi il s'agit, alors? Et... Donc il a décidé de tourner son dos et pendant longtemps auparavant il avait essayé d'autres méthodes, il avait commencé, il avait essayé d'autres pratiques, il s'est joint avec d'autres gens, il avait suivi différents maîtres pour essayer de trouver mais de quoi il s'agit tout ça. Tout ça pour lui c'était pourquoi on souffre, pourquoi on lutte et on n'est pas satisfait avec ce qu'on a, ce qui est, ce qui en est, etc. Et donc il voulait comprendre ça, savoir de quoi il s'agit. Et donc il part tout seul finalement sous cet arbre et des luttes pendant toute la semaine, difficultés, fatigue, découragement, frustration, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce que, après, certains chrétiens ont appelé le « dark night of the soul », comment on dit ça en français, la nuit sombre de l'âme. On dit pas ça?
Non.
C'est le désert, quoi. Il faut traverser cette... Non, on dit pas ça en français.
Traverser le désert.
Oui, traverser le désert, oui. Et donc, c'était pas évident, ce qu'il a fait. En plus, c'était toute seule, etc. Et donc, on dit que le 8 décembre, 8e jour... Il levait les yeux et il voyait l'étoile du matin. Et certaines traductions disent qu'il était émerveillé. Et il a dit, mais quelle brillance, c'était brillante cette étoile. Et qu'il était ébloui par la brillance de ça. Et qu'il a dit, mais c'est moi qui brille. Vous voyez que c'était pas quelque chose ailleurs, mais c'était lui qui brille. Et qu'il était ce qui brillait, l'étoile, etc. Et il regardait autour de lui et tout brillait. Tout était illuminé, comme on dit. Selon différentes traductions, la suite était ce qui est marqué ici, c'est « quelle merveille !» Combien c'était merveilleux ça, de voir tout brillant. Les pierres, les arbres, l'herbe, ses pieds, l'arbre, les feuilles, tout brillait. Et quelle merveille donc. Là il dit, cette traduction en français, tous les êtres ont la sagesse et la vertu du Tathagata. Bon. Ça, c'est déjà, je trouve, une traduction un peu pompeuse et qui est un peu élaborée dans le sens que, moi, mon interprétation, c'est je choisirais de le rendre plus basique. Toutes choses et tous les êtres ont cette même nature, quelque chose comme ça. sans ajouter le tathagata, mais bon, c'est parce que ça c'est un nom un peu jargon, un peu recherché, mais qui veut dire, qui désigne celui qui a vu, celui qui a réalisé ça. Donc, il dit tous les êtres ont cette sagesse et la vertu de moi qui réalise ça. Et la vertu et sagesse, ça aussi, c'est vrai, mais c'est, je trouve, pour moi, c'est plus important d'aller à la base, la même nature. Ce qui est illuminé, cette luminosité, se répand partout, se manifeste partout. Évidemment, ce qui est compris dans cette luminosité, ce qui surgit de ça, ce qui manifeste à partir de ça, c'est sagesse, vertu, compassion, la suite. Quand c'est réalisé, quand c'est pas réalisé, il y a ce potentiel, mais ça ne se manifeste pas forcément. On voit toutes les choses, des fois, où la sagesse se manifeste plutôt comme ignorance, ou la vertu, ou la compassion, comme la haine, la méchanceté, ou même tout simplement indifférence, je ne sais pas. C'est innombrable et possible manifestation. Donc, c'est ça ce qu'il réalise à cet instant-là. Bon, est-ce que on peut probablement débattre fin du temps. Est-ce que c'était nécessaire les 7 jours? Est-ce que c'était nécessaire toutes les pratiques qu'il avait fait auparavant? Est-ce que c'était nécessaire ce qu'il avait fait avant la pratique qu'il avait fait auparavant? Qu'est-ce que c'est le début? Qu'est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce qui rend possible cet instant où il regarde l'étoile et ça brille. Et donc, encore une fois, il y a différentes interprétations, il y a différentes gens qui disent il faut s'asseoir toute la journée comme ça, silence, comme nous on fait pendant 7 jours, etc. Bon, et pas seulement 7 jours, parce que on sait que c'est... Ça ne nous arrive pas tous les 8 décembre de regarder l'étoile du matin et réaliser ça. Il y a d'autres écoles qui disent non, il faut réciter les mantras. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut courir en permanence. Il y en a qui marchent vite, il y en a qui ne mangent pas vite. Il y en a qui s'habillent en rouge, il y en a d'autres qui s'habillent en noir.
Tout ce que tu dis est vrai là ou...
Oui, les Tibétains, ils ne sont pas en noir, hein, ils sont en rouge.
Ils ont le mantra. Ils courent en permanence,
les gens. Il y a un secte japonais qui, on appelle ça même les moines coureurs, je crois, non ? Ça ne te dit rien, toi ?
Ça
dit rien. Non. Et leur pratique, c'est qu'ils courent. C'est comme une espèce de pratique de courir. Mais dans leur robe et tout, hein, c'est pas dans le jardin et tout. Hein, où il y en a d'autres qui tout est centré sur la récitation des sutras, que c'est à travers ça qu'on va s'éveiller, disons. Il y a des gens qui s'habillent en blanc, il y en a d'autres qui s'habillent en jaune, il y en a qui ne peuvent pas manger après-midi, il y en a qui ont, je ne sais pas, comme 189 vœux, il y en a qui sont monastiques, il y en a qui n'ont pas, se sentent pas. Il y en a qui ont le crâne rasé, il y en a d'autres qui non. Il y en a où des femmes ne sont absolument pas capables de l'éveil. Il y a même, c'est réputé que quelqu'un a entendu les maîtres japonais dire que les occidentaux ne pouvaient pas éteindre l'éveil. Pff, tout un tas de versions et possibilités innombrables. Toutes, qui tous tournent autour de cette réalisation-là, qui a été, bon, jamais écrit, mais lui, Bouddha, n'a jamais rien écrit à propos de ça. Il a parlé de ça comme nous, comme moi je fais, etc. Et puis à la suite, les gens ont commencé à écrire, il a dit ceci, il a dit cela. Enfin, c'est plutôt, j'ai entendu ça. J'ai entendu qu'il a dit ça. Et nous, on a l'idée que tout ça commence avec lui, mais en fait, non, c'est ce qui commence avec lui, c'est que lui, il a formulé d'une certaine façon et a présenté ça d'une certaine façon, et les gens l'ont écouté et l'ont continué de transmettre ça. Cette nature des choses, cet éveil, c'était pas le premier, c'est pas le dernier. C'est juste une façon de le dire qui est propre à lui. Enfin, ce que nous on pense est propre à lui. Bon. Ce qui a été transmis comme ça. Et c'est exactement pour cette raison-là que c'est important de chacun prendre cette posture ou prendre une posture et regarder pour soi-même et découvrir pour soi-même de quoi il s'agit. Et chacun va avoir une formulation différente. Chacun va vivre ça d'une façon différente, tout en reconnaissant dans ce que les autres disent de leur expérience quelque chose qui est commun. Qu'est-ce que ça veut dire de voir sa vraie nature? Qu'est-ce que ça veut dire de voir les choses illuminées? Car ultimement, toutes ces rites et toutes ces pratiques et tout ce qu'on fait autour, on peut s'en dispenser, non,
on peut s'en passer,
on peut s'en passer, c'est ça. Et même, bon, par exemple, là, aujourd'hui, Thomas se retrouve dans... Il réapprend un certain nombre de rituels, des choses comme ça. Et même, il était amené là, avant cette talk, ce discours, de faire quelque chose qui n'appartient pas du tout au boulot qu'il est censé apprendre. Parce qu'il y a une autre personne qui, normalement, doit occuper cette position qui consiste à sonner les cloches, etc., pendant les cérémonies. Ce qui n'est pas son rôle en tant que Jukido. Mais on a essayé de faire un amalgame là, ce matin, pour ça. Au Portugal, on ne fait même pas ce rituel de chanter l'ouverture du sutra, etc. Et je n'allume même pas d'encens. Et on a raccourci le rituel même qu'on avait décidé de mettre là. On n'a pas fait les prosternations. Et je ne me souviens pas si c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire ou non. On a dit qu'on n'allait pas faire les prosternations.
Aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui, hein. Ces décisions, ces choses qu'on met ou on met pas, c'est toujours aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Mais... Alors, est-ce que le fait de faire le rituel ou non, ou que c'est Thomas qui sonne les cloches ou c'est une autre personne qui sonne les cloches, est-ce que ça... Évidemment, c'est différent que si on ne le faisait pas. Mais est-ce que l'essentiel de ce qui est transmis, qui se passe, qui est communiqué, est altéré par cette trois cloches ou quatre ou pas ou... un tel qui sonne une cloche ou un autre, tout le rituel qui on allume l'encens ou non. Les gens au Portugal, ils ne savent pas du tout que pour eux, c'est l'orthodoxie, c'est de ne pas allumer le bâton d'encens. Ils ne savent pas qu'il y a une autre version. Et donc l'essence de ça, de ce qui est, se trouve ça se trouve aujourd'hui, toujours. Et ça ne dépend pas des rituels. Ça peut se trouver dans les rituels. Enfin, c'est dans les rituels, mais ce n'est pas juste en faisant une rituel que on va entre guillemets s'éveiller à cette vraie nature. C'est ça me fait penser à une chose que j'ai entendue Gempo, qui est le maître de mon maître, dire à son deuxième successeur, donc Tenke, qui est certaine parmi vous, vous l'avez vu. Enfin non, je crois qu'il y a toi qui l'as vu. Et il est, plus catholique que le pape. On dit ça en français ou non?
Oui. Plus royaliste que le roi.
Plus royaliste que le roi. Aux États-Unis, on est plus catholique que le pape. Donc plus royaliste que le roi, il est plus zen que le Soto-shu au Japon, en fait. Et donc, il a tout ce qu'il faut. C'est inimaginable pour nous, tout le rituel qu'il a, et la précision qu'il a, et les recherches qu'il a fait, et les choses qu'il a fait venir au Japon. Il a fait construire son zendo exactement aux dimensions des zendo dans les monastères. Il a une pièce séparée pour les cérémonies, il y a une autre pièce pour les discours, et il faut prosterner d'une certaine façon pour un certain moment. C'est très élaboré. Et c'est l'expert dans toutes les rituels, les formes et tout ça. Alors à un moment, Gempo lui a dit, si, et j'étais là, c'était dans une situation décontractée, je pense que tout le monde était en train de boire un verre, un café, je ne sais pas exactement, et donc il tourne vers son successeur, son deuxième successeur, et il dit, si un jour tu avais une maladie ou que tu avais un accident de voiture et tu étais cloué au lit, même paralysé, qu'est-ce que tu transmets à tes élèves? C'était... et je crois que ça suivit, il y avait une cérémonie que ce disciple, ce successeur avait dirigé, avait animé, en tout cas très élaboré, etc. Bon, il souhaitait pas du tout Gempo, il pouvait être très provocateur, Gempo, et donc c'était une provocation, mais ce qui était derrière ça, c'était qu'il souhaitait pas du tout que son disciple soit paralysé, malade, cloué, etc. Et il ne souhaitait même pas forcément qu'il abandonne tout son truc élaboré de forme, etc. Il ne disait pas qu'il faut le faire ou non. Et s'il allait chez lui, il participait, il le faisait, il ne le critiquait pas. Mais c'était une tentative de lui dire, mais de quoi il s'agit, toute cette forme, et tout ce rituel, et tout cette élaboration qui devient de plus en plus élaborée. Qu'est-ce qui est enseigné dans ça? Quel est le message? Quelle est l'essence de, quel est l'important qui est soi-disant transmis à travers ça? Je ne me souviens pas ce qu'il a répondu, t'inquiète, et je ne sais même pas s'il a répondu. Je ne sais pas ce qui a suivi. Peut-être que ce n'est pas très important, c'est plutôt la question qui est importante pour nous indiquer quelque chose. Car, comme on dit, comme nous en pratique, on est assez souple avec les rituels et les formes, tout dépend d'où on est. Tout dépend des circonstances, le lieu, les gens, ce qu'on a. Pendant longtemps, on avait 10 coussins et 10 tapis. Et heureusement, on avait chez Joey et Delphine, et de nouveau, on est chez Joey et Delphine. Et donc, on fait en fonction de ce qu'il y a, de qui est là et de ce qu'il y a. Au Portugal, beaucoup des rituels, on n'a pas fait parce que les gens qui étaient là et ce qui était à disposition ne convenaient pas pour faire des rituels. Bon, là, ça se trouve qu'ici, on n'avait pas quelqu'un pour faire le sonneur du cloche, en plus de Thomas qui fait le jikido. Et donc, on l'a fait en fonction, et on l'avait modifié en fonction de sa capacité, de là où il est dans son apprentissage, le fait qu'on n'a pas de gong, ou on n'a pas... Bon, on fait avec. Mais est-ce que ce qui est... Est-ce que l'essence est différente si on sonne, si on a quelqu'un d'autre qui le sonne, ou que c'est Thomas qui le sonne? Qu'est-ce qui est à l'essence de ça? Qu'est-ce qui est au cœur de ça? Oui.
Ce qu'on est, on est les circonstances. C'est ce qu'on est.
On est les circonstances.
On est les circonstances. We are
the
circumstances.
C'est vrai.
And we are nothing else other than that. That's what we are. What is emerging as what it is. And whatever is hidden, but it's what we are. And that's, I think, Tekke, that's where he was at that moment, he was dead. Such as we will all be in our deathbeds, if we are lucky, we will be completely ourselves in our deathbed.
Oui, ça c'est l'idéal, disons. Mais la vérité, enfin vérité, le fait est que oui, on est ça, de toute façon. Est-ce qu'on le réalise ou non? C'est ça la question. Effectivement, t'inquiète, il est complètement ça quand il le fait. Je pense que Gimpo a essayé de lui demander, mais est-ce que tu vois que tu es ça quand tu le fais? Et est-ce que c'est ça que tu transmets quand tu le fais? Et on est les circonstances, absolument. Et quand on dit ça, on dit, alors, mais pourquoi on passe tant de temps à être quelqu'un d'autre ailleurs, avec une autre femme, une autre voiture, un autre boulot, plus intelligent, moins grande, plus jeune, etc.
Ouais.
Mais le fait est que oui,
on est
ça. Et on n'a pas à être d'autre chose que ça. C'est pas que... Il faut être quelqu'un d'autre ou d'une autre façon, etc. Ceci ne veut pas dire cela, dans le sens que ceci ne veut pas dire « Ah, je vais, donc tout est bon, je ne fais rien. » Puisqu'on est ça déjà, et on le voit, alors on travaille avec ça. Donc si on n'est pas heureuse avec... quelque chose dans notre vie, on va essayer de chercher, mais pourquoi on n'est pas heureuse et qu'est-ce qui me rendra heureux? Et donc, ou qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Qu'est-ce qui est le bonheur dans ma vie? selon ces circonstances-là, comment on peut faire le mieux on a eu l'expérience ce matin avec Thomas et Joy, notre objectif c'était de remplir les coussins avec le sarrasin. Ok, on savait que c'était ça notre objectif, on avait le sarrasin, on avait les coussins et on était 3 personnes. Alors comment on va faire? Et donc on a fait des différentes tentatives, on a fait avec ce qu'il y avait. Donc on avait essayé avec un pichet, on avait pris des magazines pour faire des espèces d'entonnoirs, parce qu'il n'y en avait pas. Un sac était trop gros pour le soulever, mais finalement ça allait. On a fait avec ce qu'il y avait. Tout en gardant notre objectif, on n'a pas abandonné tout de suite parce qu'il n'y avait pas un entonnoir. Un entonnoir, on dit
Entonnoir.
On n'a pas abandonné parce qu'il n'y en avait pas. Ou on n'a pas dit, oh, ben, ça ne fait rien, on va mettre ce truc, ça revient partout, on ne va pas nettoyer après. C'était notre objectif, rester le même, de remplir les coussins de la meilleure façon possible. Et bon, avec l'usage, on va voir s'ils sont bien remplis ou non, on ne sait pas. Il reste le sarrasin, on peut toujours le remplir plus. Moi, je constate que ces affous sont énormes, et peut-être quand tu demandes les prochains, il faut les demander un peu plus petits. C'est curieux parce que la personne qui les fabrique, elle a fait des aboutons petits et des affous énormes. Donc peut-être on peut lui demander de le modifier. Elle a déjà commencé ou non?
Je ne sais pas où elle en est. La commande a été passée, donc je ne sais pas où elle en est.
Elle est au courant qu'on veut les aboutons plus grands, c'est ça?
Brigitte lui a dit, ouais. Okay. Et elle m'a dit, comment sont les coussins? J'ai dit, je ne sais pas, je ne les ai pas remplis.
Et bon, donc ça, on fait avec. Donc bon, on va faire avec ces coussins. Et c'est pas qu'ils sont mauvais. Mais... Et puis, la prochaine étape, c'était de remplir ceux qui sont ici déjà, qui n'ont pas beaucoup de sarrasin dedans. Mais faisant l'état de lieu, il n'y en avait qu'un seul qui en avait besoin et qui était possible d'ouvrir parce que les autres sont fermés. Donc, on n'avait pas de temps de demander est-ce qu'il y a des choses à coudre ici, etc. Donc, on a rempli juste un qui pouvait. Bon, on a fait selon, on s'est modifié selon les circonstances. Les gens qui font la cuisine sont obligés d'y aller. Elles font avec, elles font selon. Et nous aussi. Le groupe change quand elles ne sont pas là. Mais on fait avec. Il ne s'agit pas de résignation, ni d'une acceptance forcée, résignée, battue, soumise, etc. Il s'agit de liberté. Il s'agit d'être libre. À chaque instant. Et le clé, c'est cet éveil de regarder l'étoile du matin et voir la vraie nature de toute chose. Et de voir que tout brille. Et donc qu'il n'y a rien à changer. Et qu'il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a pas de haut et bas. Évidemment, là, c'est plus haut que là. Mais c'est des termes relatifs. Ça, c'est plus haut que le rez-de-chaussée. Ça, c'est plus bas que ça.
Tout
Toi, tu es plus haute que nous.
Pour l'instant, assis sur les chaises, oui. Et, mais je fais avec les circonstances de mon corps qui, pour l'instant, préfère être sur une chaise. Aujourd'hui, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Après-demain. Et donc c'est ça ce qu'il réalise. Et c'est la clé de tout, c'est la base, c'est l'essence, disons. Il y a des écoles, surtout zen, qui disent que c'est la seule chose importante. C'est la seule chose, il n'y a rien d'autre qui compte à part ce qu'on appelle l'éveil. Et tout est centré sur ça, focalisé sur ça. Mais bon, pour dire ça, alors il faut regarder et dire qu'est-ce que c'est l'éveil? Et qu'est-ce que ça veut dire réaliser ça? Et donc, comme Bernie Glassman avait dit l'autre soir, pour lui, pendant les longues années pendant son début de sa pratique, l'éveil, c'était primordial, mais c'était, il fallait que les gens soient dans le zendo et qu'ils pratiquent, mais à fond. Famille, boulot, amis, tout ça ne comptait pas. Il n'y avait que cet objectif éveil qui compte. Il reconnaît maintenant que c'était une façon très limitée d'aborder l'éveil, pour le poursuivre et chercher à l'incarner. Et il a des regrets par rapport à ça, surtout vis-à-vis de ses enfants. Donc, qu'est-ce qui... Oui, j'ai eu des témoignages de quelqu'un qui était là, à cette époque-là, qui dit qu'il était... qu'elle le détestait, il était odieux par Bernie à cette époque. Bon, je ne veux pas dire que c'est un charme absolu aujourd'hui, mais que c'était un personnage qui était dur, etc. Bon. On a tous ça en nous, hein. On a tous ces idées qu'on fait à soi-même et qu'on fait aux autres. Donc quand on dit que, oui, c'est de... Moi, je ne dis pas d'autre chose, hein, je dis que c'est la seule chose qui compte. C'est de s'éveiller à sa vraie nature. C'est tout. Moi, je mets toute l'emphase là-dessus. Seulement, on ne sait pas comment ça va être pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour eux. On ne sait pas. Et donc, on ne peut pas du tout imposer une forme particulière, un système, une façon de faire, etc., etc. Parce que ça change à chaque instant pour chacun. Et donc, on ne sait pas. On donne un cadre parce que ça facilite la pratique en groupe s'il y a un cadre. Ça facilite aussi stabiliser l'esprit, parce que c'est ça le gros problème, c'est que on est distrait par mille choses, on est là même pas, enfin ça fait combien d'heures qu'on est là, pas 24 heures, mais bon, quand même, ça fait on fait la moitié de la journée assise, etc. Ben, mon esprit est toujours dans tous les sens, c'est voilà, mais c'est normal, enfin, entre guillemets. C'est, il faut du temps pour s'asseoir, pour prendre son assise, laisser les choses, comme je dis, dans le bocal avec de l'eau sablée, laisser ça, trouver sa place. Donc on donne ce cadre pour ça. Mais à part ça, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et on ne sait pas où ça va nous amener. Tout en ayant cet objectif Quand on mettait les sarrasins dans les coussins, on ne savait pas du tout. On ne savait pas combien de sarrasins il fallait. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre. On ne savait pas s'il allait déborder. Et il l'a fait, et à plusieurs reprises, ça s'est débordé. On ne savait pas quand on fermait, si c'était assez. Donc parfois, il fallait le réouvrir. On ne sait pas. Mais on a cet objectif de le remplir et de le mettre au service des innombrables fesses d'une façon inconditionnelle. Nous, on est pareil. On a cet objectif de réaliser qui on est, qu'est-ce qu'on est, de voir notre vraie nature. Et être comme ces affous à le service d'innombrables êtres d'une façon inconditionnelle pour partager ça. Bon, ça reste conceptuel, tout ça. En même temps, c'est le fruit naturel, ce qui jaillit d'une façon naturelle de cette réalisation. Quelqu'un avait posé une question de cet ordre à Belfast. Est-ce que tu te souviens, Joa? C'était le jeune homme de Dublin qui était là le dimanche et qui avait posé cette question. Que le Tibétain, comment il s'appelait, Marpa, ou non, c'est pas Marpa. Bref, un des grands sages tibétains, des fondateurs du lignage tibétain ou de pratique au Tibet dans le 11e siècle, je sais pas, avait dit que la compassion était. L'expression naturelle de sagesse, ou un truc comme ça. Il n'avait pas formulé ça comme ça, mais c'était ce que j'ai répondu à la suite. Et c'était une bonne question, parce que souvent on a cet objectif qu'on veut exprimer la compassion, on doit avoir la compassion, on va aborder tout avec compassion, etc. Et parfois on dit c'est du compassion stupide. C'est un peu quand c'est fait, on sent que c'est pas, ça ne s'appuie pas sur quelque chose d'authentique. Disons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Non. C'est plaqué, c'est factice.
Voilà, quelque chose comme ça.
C'est décidé.
Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas une mauvaise chose. On peut dire, c'est mieux d'avoir quelque chose, une décision de compassion que de haine, peut-être, on peut dire. Mais bon, c'était qu'on sent que c'est. Oui, c'est un toc. Et pareil pour la sagesse. Qu'on appelle sagesse. Mais la sagesse, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont. De voir cette nature, de voir cette illumination de toutes choses. De voir sa vraie nature. Et donc, quand on voit notre propre nature, on voit la nature de toutes choses, parce que c'est la même chose. Donc, c'est la sagesse, c'est ça. Mais du même quand on va avoir cette compassion stupide, toc, plaqué, on va voir ces expressions de soi-disant sagesse, toc, plaqué, vide, qui ne sont pas authentiques. C'est une image qu'on se donne, je suis sage, ou je cherche à dire le bon mot, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ou rester distant, oui, je sais. des choses, des attitudes comme ça. Et on sent que c'est pas vrai. Mais bon, peut-être ça aussi, on peut dire, bah, il vaut mieux que quelqu'un aspire à donner une image de sagesse que de ignorance, de bêtise. Bon, c'est pas que c'est mauvais dans le sens dangereux, bien que ça peut être dangereux. C'est ça le problème. Sagesse comme ça peut être dangereux et la compassion peut être dangereuse, c'est comme ça. Mais le fait est que si véritablement on voit la vraie nature des choses, de moi et les autres, et les arbres et les pierres et tout ça, si on voit cette véritable nature, ce qui jaillisse d'une façon absolument spontanée et naturelle, c'est la compassion. Il n'y a pas deux chemins. C'est un. Et là, ce n'est plus plaqué, c'est plus toc, c'est plus une image. C'est la véritable expression de ce qu'on est.
On peut le sentir nous-mêmes d'ailleurs.
La tout à fait.
Quand nous, on est dans.
Tout à fait. Absolument.
What emerges for me is like one possibility of formulating is lovingly noticing that we are all and everybody around us, we are all the circumstances together. Hmm. And it just kind of becomes a play. It's like, in a sense, it becomes playful. Hmm. That we are all, some knowingly, not others not knowingly, and it changes. Sometimes we don't know, and sometimes we know, all of us together being the circumstances. Mm. Empty being the circumstances.
Mm. Oui, et la circonstance essentielle qu'on est tous ensemble, c'est impermanent, et c'est l'impermanence, et qu'est-ce que ça veut dire? On va toujours vers le mort. Et c'est, on est tous cette circonstance ensemble. Et quand on vraiment on réalise ça, je dis vraiment, parce qu'on sait dans sa tête, chacun sait qu'il va mourir dans sa tête, il sait ça. Mais quand c'est vraiment expérientiel, et bon, peut-être que c'est pas possible, expérientiel, tant que ce n'est pas notre moment. Peut-être que c'est vraiment, véritablement au moment quand on meurt, quand on le réalise. Donc, tout ce que je dis, c'est... Il y a des différents degrés d'expérience dans ça. Parce que, si on peut s'approcher ça dans son être, même étant pas face à nos propres morts à cet instant-là, c'est, je sais pas forcément joyeux, mais c'est, il y a une énorme tendresse, un énorme amour pour les autres, parce que eux aussi. Et on voit souvent tout ce qu'on fait pour éviter cette réalité, cette réalisation. Tout ce qu'on fait, que ce soit s'habiller d'une certaine façon ou se distraire en allant dans les discothèques ou faisant du bronzage ou même fumer des cigarettes, tout ce qui nous tue mais qui nous éloigne de cette véritable qualité précaire de. Très fragile tout ça. On est de nature très fragile et extrêmement vulnérable. Notre vulnérabilité, c'est quand on va mourir. Et on peut mourir à chaque instant. Et donc, nous sommes tous les circonstances, et les circonstances fondamentales, c'est impermanente, l'impermanence.
But we are trying all the time to keep last week's circumstances, last year's circumstances.
Mm.
And that, so we are not allowing ourselves to die as time goes by.
Mm.
And that's where the suffering and the lack of clarity comes.
Oui. Et en faisant ça, en ne se... en essayant de ne pas mourir avec ces comportements-là, on ne se permet pas de vivre, en fait. Donc, c'est terrible. Et quand on réalise ça, waouh, quelle compassion on ressent pour soi-même et sa façon qu'on le fait soi-même de s'empêcher de vivre pour ne pas mourir. Alors là, c'est quand même quelque chose. Et on le voit pour soi-même et chez les autres. Et chez les autres dans notre entourage, mais aussi la société en général. Et c'était la même chose à l'époque du Bouddha. Ça se manifestait, enfin, il n'y avait pas un verre comme ça. Il n'y avait pas des habits comme ça. Mais le même principe était en jeu. De ne pas vouloir mourir, de ne pas être malade, de ne pas souffrir, d'essayer de ne pas mourir en s'empêchant de vivre.
And then we, and then because we do that, then we cannot take our role. Assume our role
mm-hmm.
in the play, in the playoff of the circumstances.
Mm-hmm.
So there is that side of manifesting. I feel it's this. Okay, I'll take this role right now, which is this role. Next week's gonna be a different one, maybe or not or slightly. This role.
Mm. Et je vais laisser tomber mes idées de quel rôle je voudrais ou je devrais ou je n'aime pas ce rôle-là. Ou... Bon, c'est important de reconnaître toutes ces préférences, parce qu'on en a. On en a plein. Mais si on s'attache à ces préférences, exactement, on ne va pas prendre le rôle qui convient parfaitement, qui est le mien. Et tout revient à, ok, quel est mon rôle, quel est le mien, qui suis-je, donc, quel est le... Pour savoir ce qui est sa place, il faut savoir qui on est, d'abord. Et c'est ça que le Bouddha avait cherché, c'est ça qu'il a trouvé. Et c'est ça que, dans cette... cadre qu'on appelle Ruatsu, c'est ça qu'on cherche. Et là, on fait avec les circonstances. Le 8 décembre tombe un lundi. On ne peut pas pratiquer toute la journée lundi. Il y a même des... Traditionnellement, dans les Sesshin de Ruatsu, je crois que c'est... On est censé... Chaque nuit, on est censé faire zazen plus longtemps qu'on avait fait la veille. Donc chaque nuit, c'est plus longue, jusqu'à la dernière nuit où c'est toute la nuit. Pour se réveiller, voir l'étoile le matin. Bon, on ne fait pas là. Mais c'est possible. Et je me souviens, en disant ça, je me souviens, on a dû me dire ça, la première session que j'ai fait. On a dû dire ça. Je ne me souviens pas comment ça s'était présenté, mais. Parce que, après, je me souviens, après le dernier zazen du soir, moi et quelques autres gens, on a resté dans le zendo et on a continué. Bon, j'ai pas fait toute la nuit, mais j'ai fait plusieurs heures de plus et d'autres gens aussi. Je crois qu'il y avait des gens qui ont fait toute la nuit. Donc on fait pas ça. Le lundi soir, on va s'asseoir ensemble. Certains, je ne serai pas là, mais Thomas, je ne sais pas. Et c'est, bon, on peut le marquer aussi lundi soir, mais on fait avec les circonstances que le week-end est là et le 6 et le 7, pourquoi on fait pas dire on va pas le faire parce que c'est pas le mythe. Voilà. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure?
We have 10 minutes.
Mais le repas est là. Ah non, c'est pas ça? Ah. C'est. En principe, c'est 10 minutes qui restent. C'est assez pour vous? Ok. D'autres questions ou commentaires?
Oui, c'est un commentaire et ça tourne dans ma tête depuis le début. Y a deux choses. Cette semaine, je devais répondre à une question qui était posée dans le programme là, d'écriture. C'était à quel Dieu est-ce que vous croyez? Et quel est le Dieu auquel vous aimeriez croire? Et ça m'a pris quelques jours pour répondre, et j'étais très gêné, je détestais la question. Je détestais la question parce que je suis pas du tout à l'aise avec cette idée, pas du tout à l'aise. Et donc j'ai écrit pourquoi c'était très compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Essentiellement parce que j'ai l'impression que c'est une... J'adhère pas au concept, j'adhère pas à cette idée, je crois pas... Enfin, voilà, donc... Et du coup, en creux, c'était aussi ce à quoi je croyais. Et du coup, un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça m'a reflété par rapport à mes croyances à moi? Et de me dire, mais peut-être, est-ce que je peux me mettre dans l'idée d'une toute autre configuration? Est-ce que j'arrive à me mettre dans cette idée, oui, bien sûr, il y a un Dieu créateur, un type qui a un monsieur barbu, est-ce que ça a tout autant de validité que mes croyances qui sont complètement inverses? Et ça m'a fait penser à Carrère, à un moment, Emmanuel Carrère, dans son livre, il dit, par rapport au bouddhisme, il dit, pour adhérer au bouddhisme, il faut quand même, si une personne n'adhère pas à la première des quatre nobles vérités, que le monde est dukkha, que le monde est souffrance, qu'on est dans cette anxiété, qu'on n'arrive pas à... etc. La suite ne suit pas, en fait. Et ça m'a rappelé qu'effectivement, qu'en terminale, j'avais fait un exposé face à mes camarades sur le bouddhisme, et que j'ai exposé les quatre nobles vérités, il y a une personne qui a dit, dès la première quatre des nobles vérités, je suis désolé, moi j'ai pas du tout cette expérience-là. Que le monde est souffrance, ou le monde est anxiété, ou que on est en décalage par rapport à tout le reste, très difficile. Enfin, ça, effectivement, si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, toutes les autres vérités qui est comme quelles sont les possibilités d'en sortir et les méthodes, etc. Ça n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est une question. C'est comme aller chez le médecin alors qu'on considère qu'on va très bien, et pourquoi recevoir un traitement? Enfin, c'est de cet ordre-là. Ou alors on pense qu'on est fondamentalement malade mais qu'on ne sait pas, et, etc. Mais... Donc c'est ça qui tournait dans ma tête sur cette histoire de croyance et de... Qu'est-ce qu'on fait et comment ça s'intègre?
Bah oui, parce que c'est pour ça que quand on dit c'est les concepts, ça reste. Si quelqu'un dit oui, c'est pas du tout, j'y crois pas. C'est pas mon. Je vois pas du tout qu'il y a cette histoire de souffrance, de difficulté, d'insatisfaction, je vois pas. Si on n'a pas cette expérience, effectivement, c'est pas la peine. Parce que tous, c'est pour ça que le Bouddha disait, mais ne crois pas ce que je dis. il faut l'expérimenter pour soi-même. Et si on n'a pas cette expérience, mais ça, c'est ok. C'est pas son expérience, c'était ça. Et dans son expérience, c'était généralisé. Il voyait ça partout. Mais bon, si quelqu'un n'a pas cette expérience, effectivement.
Et je crois, je pense, j'ai commencé à penser à ça aussi par rapport à ce que tu disais sur Tenke, c'est-à-dire la possibilité qu'à un moment on finisse soi-même par s'accrocher à un truc comme vraiment well that's the truth. Mm. Et je reviens à ce truc vraiment de Bernie, c'est just an opinion. It's really my opinion, ou mon expérience, c'est peut-être un peu plus noble de dire mon expérience que mon opinion, mais cet exercice, en tous les cas, moi, m'a fait voir mes attachements à mes opinions sur un truc. Je déteste cette idée de Dieu, je suis très attaché à l'idée que, mais c'était aussi mon just my opinion. Mm.
Oui, tout à fait.
Et il y a une grande tendance, j'ai vu tout d'un coup en ayant cette question posée, combien j'ai aussi développé tout un corpus de croyances à partir de mon expérience.
Bien sûr.
Oui.
Et que ça peut se solidifier assez rapidement avec that's the way to put the incense stick.
Et si on ne le fait pas, bah, on va les exploser, on va taper en suicide, ça va très vite.
Ça va très vite.
Ça monte très vite. Si on n'a pas la croyance que moi j'ai, je vais les massacrer, je vais les tuer, je vais les éliminer. Ouais. C'est ça qui est terrible avec les croyances religieuses, surtout. C'est ce qu'on voit, c'est pas sur le monde à travers ça.
Et c'est subtil, parce que effectivement, comment... Voilà, comme... fait partie d'une tradition, on récite des choses, on est porté par voilà, les quatre nobles vérités, notre auto, le fait de faire ça ensemble aussi, peut-être ça renforce aussi un ensemble de convictions sur le oui, bien sûr, les gens sont forcément toujours en décalage par rapport à leur nature profonde, etc., etc. On auto, peut-être pour une part, ou peut-être c'est ça m'a confronté à ces questions-là, en fait.
Mmh. Oui, c'est important. Parce que cette tradition, entre guillemets, dans laquelle on est là, pour le moment, mais ça aussi, c'est aujourd'hui. C'est ça la clé, je trouve. C'est qu'il faudrait que ce soit vivante à chaque instant. Sinon, ça devient solide et toc. C'est ça le clé, c'est la vivacité de la chose. Et la seule possibilité pour le rendre vivant, c'est de l'incarner, de le vivre, de l'expérimenter et de continuer de chercher, de se poser des questions comme ça, de creuser. Moi, chaque fois que je... Bon, évidemment, j'ai passé par une phase où j'ai juste appris des rituels et j'ai fait sans réfléchir, etc., etc. Mais au fur et à mesure que j'ai fait, c'était important, cette phase, parce que j'ai lâché, j'ai juste fait. J'ai juste fait des rituels, etc. Je ne posais pas de questions, je l'ai dit, je l'ai fait. Et c'était un bon exercice pour me vider de mes idées, de mes opinions, etc. là-dessus, pour pouvoir revenir à ça. Et maintenant, quand je fais des rituels et des choses comme ça, c'est comme, comment on dit, un open book. C'est je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces vœux que je récite, qu'est-ce que c'est cette histoire de prostituer devant un truc avant d'aller à l'hôtel et tout ça, etc. Je le fais, mais tout en le. C'est fluide dans le sens que c'est pas fixé, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme cela. Ceux qui le font d'une autre façon sont nuls. Comme tu dis, comme c'est le moment de battre dans le sang comme ça, etc. J'essaie de. Enfin, quand je suis. Parfois, je le fais juste sans réfléchir. j'ai l'habitude. Donc je le fais sans réfléchir. Mais si je suis amenée à faire quelque chose que je n'ai pas... Bon, l'orioki, c'était intéressant aujourd'hui parce que j'avais des bols. Je n'ai pas utilisé ces bols-là depuis 10 ans, 11 ans maintenant. Parce que pour ma transmission, on m'avait donné les autres bols. Et je vois mes automatismes avec les autres bols qui ont une autre consistance, qui sont plus lourds. Le tissu pour faire le carré est plus grand et souple. Et donc là, je me retrouvais avec un tout petit bandeau parce que c'est pas le même tissu. Mais j'ai pas été assez souple pour aller avec le changement de bol, etc. etc. Ce rituel-là, je ne dis pas qu'il faut absolument faire Yorki d'une telle ou telle façon, mais ça m'a servi ce matin à voir mes attachements, mes habitudes. Et donc, hein, c'est pour ça que je garde ce rituel, pour cette raison-là. Là, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Okay.